Bon matin. Désolé, je suis arrivé un petit peu juste tantôt. La dernière fois, c'est quand j'étais avec Marie-Pierre, j'ai passé tout droit, puis j'ai battu mon record aujourd'hui. La dernière fois, je m'étais rendu, je pense, à Saint-Léon. Tu sais quoi la sortie après? Vallée-Jonction. Puis là, j'ai tourné à Saint-Joseph. Parce que je chasais avec, à un moment donné, je me dis, mais ça me semble, je suis un peu trop loin. Puis là, je me suis rendu compte, j'étais rendu. Alors, j'ai revenu, je pense que c'est 15-16 km de trop. Mais on est arrivé juste au début. On a eu du bon temps quand même. En tout cas, moi, j'espère que ma fille aussi. Donc, merci pour votre soutien, vos prières. On en a besoin. Je ne sais pas la dernière fois, c'était quoi les dernières nouvelles? Marie-Pierre, mon épouse, elle avait des migraines, mais là, c'est terminé. Donc, c'est toujours des phases de 5 à 8 semaines. Des fois, ça va jusqu'à 10, 12. C'est déjà été jusqu'à 16 semaines. Mais là, elle a fait 5-6 semaines, puis c'est parti. Donc, on est vraiment reconnaissant au Seigneur. Parce que c'est handicapant, la maladie qu'elle a depuis qu'elle est adolescente. Et merci de prier aussi pour l'heure de la bonne nouvelle, notre émission de télévision, on tourne les prochaines émissions dans deux semaines. Alors, priez pour nous. Et le thème va être à la poursuite du bonheur. Donc, on va parler aux Québécois comment on poursuit le bonheur, puis est-ce qu'on peut... Parce que le problème avec le bonheur, c'est qu'on peut l'attraper, mais on ne peut jamais le garder. C'est pour ça qu'on est toujours à la poursuite. Mais quand on attrape le bonheur en Jésus, le vrai bonheur avec Dieu, lui, on peut le garder pour toujours, peu importe ce qu'on vit. Alors, c'est ce qu'on veut partager aux Québécois et Québécoises, et en fait, au monde francophone, partout dans le monde, qui peuvent écouter les émissions. Et je vous invite, on va lire ensemble tout de suite dans 2 Corinthiens. On va lire notre texte. 2 Corinthiens au chapitre 6. Et on va faire le verset 3 jusqu'au verset 13. Donc, 2 Corinthiens 6, 3. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Le titre du message, que j'en ai toujours un titre, une vie qui témoigne le vrai évangile. Une vie qui témoigne le vrai évangile. Il y a beaucoup de choses dans ces textes-là qu'on va voir. On ne va pas tout voir chacune des choses en détail. On pourrait faire une série pendant plusieurs dimanches si on isolait chacun des points qui fait. Mais on voit dans ce texte-là ce matin qu'on regarde que Paul fait une première tentative pour rétablir sa relation avec certains Corinthiens qui avaient été influencés par les faux enseignants. Certains des chrétiens de Corinthiens cherchaient constamment à lui faire du trouble. Ils voulaient des preuves que Paul était vraiment un apôtre. Puis là, il faut se mettre dans le contexte, parce que nous, on le sait bien, on a le canon, on a les lettres de Paul. Alors, personne ne remet en doute Paul, mais peut-être certaines personnes, dans ceux qui étudient, dans les hautes études, vont remettre en question. Mais nous, dans nos églises, on ne remet pas en doute Paul. Mais eux, ils n'avaient pas le canon. C'est un homme qui persécutait les chrétiens, puis qui maintenant parle là, des choses de Dieu, il envoie des lettres à des églises. Donc, il y a des gens qui disaient, « Ben là, nous, on veut des preuves, on ne croit pas que tu es vraiment de Dieu. Tu voulais persécuter les chrétiens. » Donc, je ne sais pas tout ce qui se disait, mais ils ne croyaient pas que Paul était vraiment un apôtre. Et Paul, ben, même il dit, dans au chapitre 13, on va voir plus tard, pas ce matin, mais dans l'étude plus tard, « Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. » Ils veulent une preuve que Christ parle. Alors, Paul va adresser, on va le voir dans les chapitres 11, 12, 13, pas ce matin. Il va adresser ces détails-là un peu plus en parlant des faux enseignants, des preuves de son apostolat. Mais ici, il fait comme une introduction. Et là, c'est un problème parce que si les Corinthiens ou certains Corinthiens rejettent Paul, l'apostolat de Paul, mais ça va plus loin que juste rejeter la personne, c'est aussi rejeter son message. Puis si on rejette le message, c'est aussi rejeter l'Évangile. Donc, vous voyez l'importance de « Hey, faut rétablir ça ». Alors, son but, c'est pas de rétablir son autorité pour être aimé. Tu sais, des fois, on veut rétablir les relations, mais lui, c'est au-delà de la relation. Oui, il veut rétablir son autorité, mais dans le but de protéger le message de l'Évangile. C'est ça qu'il faut avoir en tête. L'Évangile est attaqué, là, à cause de ces gens qui rejettent Paul. Donc, il veut protéger le ministère de l'Évangile. Il veut que les Corinthiens se repentent d'avoir écouté ses faux enseignants. Puis il le dit, hein? « Donnez-nous une place dans votre cœur. Revenez au vrai message de l'Évangile. » Et ce que Paul dit, vous savez, quand on lit dans les Écritures, des fois, on a l'impression qu'il y a des contradictions. Moi, j'appelle ça les apparences de contradictions. Parce que moi, je crois que la Bible ne se contredit pas. OK? Elle est infaillible, elle dit toute la vérité, rien que la vérité. Elle est la parole de Dieu du couvert de Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse. L'inhérence des Écritures, on appelle. Mais on a l'impression des fois qu'il y a des choses qui semblent... Puis il y en a un dans notre texte ce matin, parce qu'au chapitre 5, je vous rappelle, pause et tournez, je vous rappelle, Paul avait dit, « Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. » Nous ne nous recommandons pas. Et là, ici, il va dire, « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. » Et là, on pourrait dire, « Ben là, il se recommande-tu ou il ne se recommande pas? » Parce que là, il y a de l'air à dire, « Nous nous rendons recommandables. » Il y a une différence, vous l'avez sûrement perçu dans le français. Il y a vraiment une petite différence dans les deux versets. « Se recommander » c'est pas la même chose que se rendre recommandable. C'est ça la petite nuance. Se recommander, qu'est-ce que c'est? C'est de faire une auto-promotion humaine, de parler de soi, faire sa propre publicité. Hein? Écoutez-moi. Moi, je vais vous le dire. Et ça, Paul, il dit non. Parce que se recommander, c'est vraiment chercher à impressionner les autres. Paul, on le sait qu'il n'est pas là. On sait que Paul n'est pas là pour se vendre, pour montrer comme faisaient même les Corinthiens, les faux enseignants qui étaient à Corinthe. Ils se vendaient eux-mêmes. Non, Paul, c'est pas ça qu'il veut faire. Se rendre recommandable, c'est vraiment donner une preuve vivante que son ministère, c'est ce que Paul veut faire, donner une preuve vivante que son ministère est authentique. Il veut le démontrer par ses œuvres. Il veut le démontrer par les épreuves qu'il va endurer. Il veut démontrer par son intégrité. Donc, il ne se recommande pas lui-même. Il laisse sa vie, en fait, son témoignage de vie, le faire à sa place. C'est comme s'il disait, hey, regardez ma vie, puis en regardant ma vie, soyez convaincus que je suis un serviteur de Dieu. Donc, c'est là la nuance. Il n'est pas en train de se vanter. Il dit, regardez ma vie. Puis c'est là qu'il va te décrire, puis on le voit toute la description qu'il a fait. Son témoignage de vie est plus convaincant que ses paroles. Puis ça, c'est bon pour nous, hein? C'est une belle leçon. Son témoignage de vie est plus convaincant que ses paroles. Et on devrait avoir la même façon d'être dans le monde aujourd'hui, que notre témoignage de vie parle plus fort que ce qu'on dit. Parce qu'on est bon pour bien en dire des choses. Mais quand on marche, puis qu'on on vit, puis qu'on agit, bien, ça part. Parce que des fois, le monde va dire, ah, il dit tout le temps bien des affaires, mais dans sa vie, là, c'est ordinaire. Notre vie témoigne autour de nous, puis il va convaincre les gens que nous sommes enfants de Dieu, plus que nos paroles. Alors, moi, j'ai deux points. Ça va être simple, je n'ai pas de PowerPoint, mais je vais essayer de vous les répéter. Deux points simples. Puis le troisième, j'ai trois points, mais deux éléments. Puis ensuite, on va voir un troisième point. Mais le premier point que je veux qu'on regarde, c'est que Paul nous parle, c'est que la patience dans l'épreuve parle plus fort que nos paroles. La patience dans l'épreuve va être un plus grand témoignage, va parler plus fort que nos paroles. Et ici, Paul présente 9 épreuves qu'il a supportées avec patience. Et là, c'est pour ça, tantôt, je vous disais, on ne va pas les regarder, parce qu'il y en a 9. Après ça, il y a 9 autres affaires. Puis ensuite, il y a 9 autres affaires, on serait à 27 points. Fait que je ne ferai pas ça ce matin, 27 points. Mais il y a 9 épreuves qu'il a supportées. Il l'a dit, je vais les lire quand même. Nous rendons recommandables par beaucoup de patience dans les tribulations, les calamités, les détresses, les coups, les emprisonnements, les séditions, les travaux, les veilles et les jeûnes. 9 éléments, 9 épreuves. Et toutes ces 9 épreuves-là, Paul les a supportées, nous dit le texte, avec patience. Et il faut expliquer ce que ça veut dire avec patience, parce que honnêtement, quand on lit dans notre français, là, moi j'ai l'impression qu'on a des idées avec des mots qui ne sont pas toujours arrimé avec le sens du mot dans le grec, dans le langage original. Parce que le mot patience, tel qu'on le connaît, ça ne rend pas justice. Parce que c'est un mot qui a souvent une connotation négative. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, l'idée, tu sais, c'est souvent lourd comme mot. T'sais, bon, on va dire c'est long, mais tu sais, il faut être patient, puis il faut être patient, il faut que tu endures l'épreuve. Tu sais, c'est dur la vie, mais il faut que tu sois patient, il faut que tu prennes ton mal en patience. Tu sais, on dit souvent ça, hein? Prends ton mal en patience. Puis... Donc, ça a un aspect négatif, un peu de manière qu'on le comprend, je trouve. Moi, j'ai connu une personne hein, qui a enduré patiemment toute sa vie. En fait, il a enduré patiemment sa vie. Mais il chialait tout le temps. À chaque jour, il critiquait, puis il chialait, puis il chialait. Puis s'il n'y avait rien à chialer, il trouvait quelque chose, je vous garantis, il trouvait quelque chose. On va chialer. Mais il endurait, puis il était patient dans la vie, puis c'était long, puis il regrettait ses choix de vie, il regrettait toutes sortes d'affaires. C'est exactement le contraire que Paul il nous dit de faire. Il ne faut pas chialer. C'est pas ça l'idée du mot patience, l'idée d'attendre, puis... chialer, puis patience, puis c'est long, puis prends ton mal en patience. Parce que le mot patience ici ne décrit pas cette idée-là d'accepter. Oh, c'est désagréable, c'est pénible, puis il faut accepter d'une manière désagréable toutes ces épreuves-là. Le mot patience ici décrit plutôt l'attitude de foi, l'attitude de la joie, puis de l'espérance à travers l'épreuve. En fait, c'est comme si Paul disait, hey, à travers toutes ces épreuves-là, tribulation, calamité, détresse, puis là on les nomme les 9, à travers toutes ces épreuves-là, je garde la foi. J'ai encore la joie. Puis j'ai encore l'espérance. de la gloire à venir. Je continue d'attendre avec espérance. Voyez-vous que le mot « patience » a un côté beaucoup plus positif? C'est ça la patience chrétienne. C'est ça la patience des enfants de Dieu. C'est cette patience-là qui va convaincre les Corinthiens à changer d'avis à propos de Paul. Parce que vous savez, il y a juste Dieu qui peut produire ça en nous. Une patience comme ça. Une patience avec la joie. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Une patience qui va faire qu'on ne va jamais faiblir dans notre espérance, qu'on va toujours garder les yeux fixés sur le Seigneur. C'est cette patience-là qui va attirer les autres qui nous voient à Christ. Parce qu'ils vont dire, ben voyons donc, regarde son attitude, regarde son amour, regarde sa joie. Regarde comment elle ne perd pas courage à travers même ça qu'elle vit. Et cette patience-là étonne les autres. Puis là, ça prouve qu'il y a un Dieu qui est quelque part vivant, qui est là, qui nous supporte. Notre foi, notre espérance, notre joie qui continue à travers les épreuves de la vie. Mais là, il faut que je fasse une nuance, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut aimer la souffrance. Mais moi, je suis pas là pantoute, là. Une autre épreuve que je vais souffrir, puis oui, puis j'aime la souffrance. Il faut pas aller là non plus. Je veux dire, la souffrance, c'est quoi? C'est la conséquence du péché. Donc, expérimenter la souffrance, c'est expérimenter la conséquence du péché. J'aime pas le péché ni ses conséquences. Et quand on y pense, la souffrance en elle-même, elle n'a rien de bon. La souffrance, ce n'est pas une vertu. Ce n'est pas la souffrance qui nous transforme. C'est Dieu qui utilise la souffrance pour nous transformer. Donc, c'est important de se rappeler qu'on attend patiemment, mais ce n'est pas dans le but de dire « il faut que tu aimes ta souffrance ». Non, je ne l'aime pas, mais je sais que Dieu l'utilise pour sa gloire puis m'amène plus loin. Puis je vais la regarder avec joie, parce que je sais que ça produit quelque chose, mais je ne vais pas aimer ma souffrance. Puis, comprenez, il y a une différence, une nuance à faire qui est importante. Dieu utilise la souffrance. J'ai une Bible, j'ai un commentaire dans une... Vous savez, il y a des Bibles avec commentaires. C'est la NIV. Je veux juste vous lire ça. Je l'ai pas. D'habitude, je le mets à l'écran. Mais la plus grande manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies n'est pas l'absence d'épreuves ou la présence de miracles quelconques. Parce qu'on pourrait dire ça, hein? Regarde, il n'y a pas d'épreuves. Dieu est puissant. Hey, regarde les miracles. Non, non, c'est pas ces choses-là qui démontrent, qui manifestent vraiment la présence de Dieu. Mais la patience avec laquelle on supporte l'épreuve et la transformation que Dieu opère en nous à travers elle, c'est ça qui fait qu'on voit que la puissance de Dieu dans la vie du croyant, à cause que les gens voient notre patience, et non seulement notre patience, mais notre transformation. Moi, j'ai vu des gens être transformés complètement suite à des épreuves. Des gens que je me disais jamais que cette personne-là va changer. Mais Dieu utilise les épreuves, la souffrance, puis fait des miracles, fait des transformations grandes. Puis ça, quand je vois ça, ça me fait du bien. Ça me fait comme, waouh, Dieu est vivant. Dieu travaille, Dieu fait des grandes choses dans la vie du monde. Puis pas parce qu'il n'y a jamais d'épreuves, puis qu'il y a juste des miracles. Non, parce que Dieu travaille à travers et nous amène à patiemment supporter ces épreuves-là. Donc, le premier point simple, la patience dans l'épreuve, va parler plus fort que nos paroles. Le deuxième point que je veux parler, c'est une vie soumise à Dieu va aussi parler plus fort que nos paroles. Une vie soumise. Puis encore là, 9 qualités que Paul présente, qui devraient accompagner l'ouvrier, mais aussi tout chrétien. Il va dire la pureté, la connaissance, la longanimité, la bonté, être conduit par l'Esprit, l'amour sincère, l'attachement à la parole de vérité, la manifestation de la puissance de Dieu, l'utilisation des armes offensives et défensives de la justice. Et vous voyez en tête de liste, c'est quoi? Le premier que j'ai dit, la pureté. Et moi, je trouve ça super intéressant. La pureté. 9 qualités, mais le premier en tête de liste, c'est la pureté. Et j'ai l'impression, ma façon de le voir, j'ai vraiment l'impression que cette pureté-là est en tête de liste parce que tout le reste découle de cette sainteté-là que Dieu nous appelle à avoir, que Dieu exige de nous. Tout découle de la pureté et de la sainteté, en quelque sorte. Je ne peux pas approfondir ma connaissance de Dieu, parce que c'est un des points, hein, la connaissance. Mais je ne peux pas approfondir ma connaissance de Dieu si je ne suis pas en communion avec lui. Puis je ne peux pas être en communion avec lui si je vis dans le compromis ou dans le péché. Ça ne fonctionnera pas. Je ne peux pas non plus expérimenter sa puissance puis être conduit par le Saint-Esprit si je marche selon les convoitises de ma chair. Vous voyez? Puis je ne peux pas m'attacher à la parole de Dieu si je n'obéis pas à la parole de Dieu. Donc, il y a vraiment la pureté qui est en tête de liste parce que c'est un point extrêmement important. Veiller à la pureté, à notre pureté. Puis en passant, là, c'est pas juste veiller dans les actions, puis j'irai pas à tel endroit, ou je regarderai pas telle chose, ou je dirai pas telle parole. C'est même juste que dans notre cœur, dans le secret, quand il y a personne, dans nos pensées, la pureté commence là. Hein. Parce que c'est du cœur que viennent toutes les convoitises puis toutes ces choses-là. Fait que c'est là qu'il faut le tuer, qu'il faut battre, qu'il faut l'attaquer. Parce qu'on veut être des personnes pures pour le Seigneur. Pas par nos propres forces, mais parce que Christ est mort et a tout pris ses impuretés, ce péché sur lui. Lévitique 19, vous connaissez peut-être pas, mais vous connaissez ce verset-là. « Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché pour nous amener dans une relation avec lui. Dieu a délivré Israël en Égypte pour l'amener dans une relation avec lui. Mais on sait qu'Israël, bon, ils ont chialé, ils sont allés après d'autres idoles, puis ça a été difficile. Mais Dieu veut vivre une relation avec ses enfants. Et le résultat de cette relation-là, c'est qu'on doit rechercher la sainteté, mais refléter la sainteté de Dieu. Le peuple d'Israël, lisez le Lévitique, vous allez dire, c'est peut-être pas le meilleur livre à lire, surtout pas avant de se coucher. Des fois, c'est ardu un peu, le Lévitique. Mais il est très intéressant, hein, ce livre-là. Parce qu'on voit qu'Israël avait toutes sortes de rites de purification, justement pour lui rappeler qui est appelé à être saint. Pourquoi tous ces rites-là? Bien, c'est parce que, probablement, parce que là, je n'ai pas toutes les recherches, mais quand j'avais étudié le texte de Lévitique, je me souviens que, pourquoi pas faire ça? Parce que les peuples faisaient ces choses-là, puis je veux que tu sois différent des peuples alentours. Tu m'appartiens, je veux que tu sois à part. Alors, il y avait toutes sortes de rites, de manières de s'approcher de Dieu, parce que je veux que tu sois différent des autres nations. Puis on est appelé aussi à être différent des gens autour de nous, dans nos villes, dans nos rues, dans notre province, dans notre pays. On est appelé à être différent des autres. Puis ça ne veut pas dire de sortir du monde. Hein. Dieu, Seigneur Jésus, je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Être différent. Si je suis enfant de Dieu, je suis appelé à vivre une vie sainte et à fuir le péché. Puis je sais que c'est pas quelque chose qui est toujours évident. On a des périodes de la vie, des fois, où est-ce que la lutte peut être plus intense. Où est-ce que Dieu peut même permettre des chutes. Dieu a permis à David de tomber pour lui montrer une leçon importante. Ça se peut que Dieu permette des choses. Il y a des époques de la vie qui peuvent être plus difficiles. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut se relever et dire, « Seigneur, Christ est mort. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. » Puis je veux continuer, puis je veux que tu produises en moi le vouloir et le faire, puis je veux que tu me donnes ce désir de rechercher la sainteté. Alors même si on est dans une époque plus difficile, on se relève, puis on continue, puis on continue, puis on continue, puis on crie à Dieu, puis on cherche sa face constamment. Mais Dieu peut permettre des choses comme il l'a fait avec David, puis à d'autres. C'est ce que Paul faisait. Et j'aurais aimé ça, tout relire ce que Paul dit dans le... Moi, je suis dans Romains 6, 7, 8, là, présentement. Et pas à l'Église, mais dans mon temps à moi. Là. J'aime ça mémoriser les Écritures le matin. Puis je suis vraiment dans Romains 6, 7, 8. Puis de voir comment Paul, c'est exactement ce qu'il faisait, il recherchait. On va-tu demeurer dans le péché pour que la grâce avance, loin de là? Livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais offrez-vous à Dieu. Livrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Donc, Paul se livrait à Dieu. Paul vivait pour Dieu. Il se considérait comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui s'est passé dans notre vie. Je suis mort au péché, vivant pour Dieu. Alors, c'est ce que Paul faisait. Il marchait. Il était-tu parfait? Non, mais il marchait pour Dieu. C'est pour ça qu'il a pu approfondir sa connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il est allé plus loin. Quand je regarde l'apôtre Paul, je dis, « Mais Seigneur, je veux ça, mais es-tu comme une élite à part, puis personne ne peut être aussi saint et spirituel que l'apôtre? » Non, je pense qu'il a fait des choix dans sa vie, il a cherché Dieu, puis il a pu approfondir sa connaissance de Dieu, il a pu grandir dans sa connaissance de Dieu, il a pu être conduit par l'Esprit, il s'est attaché à la parole de vérité, il a pu manifester la puissance de Dieu dans sa propre vie. Tout ce qu'on a lu, il l'a fait. Puis c'est ça qu'il va dire aux autres, « Gardez ma vie. Dieu est là, je suis vraiment son serviteur. » Et malheureusement, par exemple, malgré les vies pieuses, Paul s'est fait injurier. Paul s'est fait mettre de côté. Puis je lisais dans Forgotten Spurgeon, c'est un livre. Mais regardez Charles Spurgeon, vous connaissez Charles Spurgeon, hein? Il dit, « Se passe rarement une journée au cours de laquelle les injures les plus ignobles, les calomnies les plus effrayantes ne soient pas prononcées contre moi, à la fois dans le privé et dans la presse. Tout est mis en œuvre pour rabaisser le serviteur de Dieu. Tous les mensonges qu'on peut inventer sont lancés contre moi. » Hey, ça, c'est décourageant, ça. Travaille fort pour prêcher l'Évangile, la vérité. J'ai Dieu avec moi, j'ai le Saint-Esprit qui m'habite, puis je me fais calomnier, mentir, dire des choses. Puis en passant, là, tu sais, quand tu te fais dire des fausses choses sur toi, c'est parce que même si tu dis que c'est pas vrai, puis même si tu prouves que c'est pas vrai, ça a été dit, puis des fois, ta réputation est entachée. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont douter. Ben, peut-être que c'est vrai. Fait que c'est vraiment, vraiment pas facile pour ceux qui se mettent comme en avant-plan, comme Charles Spurgeon, comme l'apôtre Paul. Puis moi, ça me donne le goût de prier pour ces hommes-là, pour que Dieu les soutienne à travers ces épreuves-là, de calomnie, de mensonge, de gens qui les rejettent. Donc, je relis mes deux points, parce que c'était simple. Hein? La patience dans l'épreuve va parler plus fort que nos paroles. Une vie soumise à Dieu va parler plus fort que nos paroles. Ça ne veut pas dire de jamais parler. Prêche l'Évangile. Mais ta vie, ta patience dans l'épreuve va venir vraiment solidifier, puis c'est peut-être là que les gens vont voir que ouais, finalement, ce qu'il dit, ça a du sens à cause de comment il le vit. Alors, deux points très importants, mais malgré ça, la patience dans l'épreuve, malgré la vie soumise, le témoignage de vie n'est pas toujours bien reçu. Puis c'est ça qu'il va dire dans les versets 8 à 10. Et là, je vous ai dit, il y a neuf choses, hein, neuf épreuves, neuf vérités, je ne sais pas, je ne me souviens pas, j'avais dit quoi, mais neuf qualités, et là, neuf paradoxes. Hein? Neuf paradoxes dans son ministère pour Dieu. Tous ceux qui ont vu Paul, ça c'est vrai pour nous aussi en passant, on voit le même homme, la même personne, mais tous ceux qui l'ont vu n'ont pas tous eu la même perception. Bon, quelque part, c'est normal, tu sais, on voit quelque chose, puis on n'a pas nécessairement les mêmes lunettes, puis on n'a pas la même perception, puis c'est ça qui arrive. Puis Paul, ce qu'il veut faire, c'est ajuster ces perceptions-là qui ne sont pas nécessairement justes à 100%. Vous savez, Paul a beau avoir le message le plus glorieux, marcher dans la sainteté, il voit des conversions, des gens qui viennent au Seigneur, qui s'engagent pour Christ, même sous la menace de la mort. Des gens qui suivent Christ sous la menace de la mort, hey, c'est beau. Il a beau être apprécié, encouragé par des chrétiens, certains chrétiens. Il est béni spirituellement par Dieu, mais en même temps, il est déshonoré. Il est outragé par le monde à qui il s'adresse. Parce que à Corinthe, il y en a encore qui sont pour que ça, qui disent, hey, donnez-moi une place dans votre cœur. Il veut avoir cette. Pourquoi? Mais pour l'Évangile. Il est aimé par certains chrétiens, mais en même temps haï par d'autres. Et là, certains le regardent comme imposteur. Pourtant, il porte la parole de vérité. Et moi, je me souviens, quand je me suis converti, j'avais été dans les écoles. J'étais comme en feu, puis je le suis encore, mais tu sais, je ne suis pas plus dans les écoles. C'est une autre époque, là, mais j'allais dans les écoles. J'avais 19, 20 ans. J'allais dans les écoles secondaires, secondaire 4, principalement, enseignement religieux. Je pense qu'il n'y a plus ça à l'école aujourd'hui. C'est encore ça, non? J'appelais les professeurs. J'aimerais ça aller. Puis j'ai fait peut-être 12, 13 écoles. Québec, Sherbrooke, je me suis promené un peu partout. Puis j'allais donner mon témoignage, puis dans les classes. J'ai même été une fois dans l'auditorium. Il dit, gars, viens sur l'heure du dîner. Une trentaine de jeunes sont venus. Puis j'avais été avec Bethel, parce que j'étais à Bethel à cette époque-là. Puis on avait chanté, on avait fait un sketch. Puis je pense que c'est la première fois que je suis allé, la professeure, elle m'aimait bien, elle a fait écrire des commentaires par les étudiants. D'appréciation ou non. Hein. Puis il y en a un qui m'a toujours resté collé. Ça, c'est en lien avec les gens qui regardent Paul comme un imposteur, puis comme étant un menteur. Mais voyez, regardez ce qu'il m'a écrit, le jeune. « Tout ce que tu dis est bien beau, et tu es très convaincant. Mais je crois que tu en rajoutes, et je n'y crois pas. » Donc, j'en rajoute, ça veut dire que je suis un menteur. J'invente des affaires, puis il ne me croit pas. Il dit, « Tu serais probablement capable de te partir une secte. » Honnêtement, là, ça m'a super encouragé, ça. Pas parce que j'avais le goût de me partir une secte, mais parce que je disais, hey, moi, j'ai cru au message de l'Évangile, je suis convaincu du message de l'Évangile, puis le petit gars, là, il dit que je suis convaincant, puis je serais capable d'en amener une gang avec moi, mais c'est pas ça que je veux faire, je veux amener une gang à Christ. Puis ça m'a super encouragé, ça, parce que Paul était convaincu aussi, mais il était rejeté. Et là, on va regarder, parce qu'il dit verset 9, je vais juste un peu résumer avec verset 9, 10, et regardez, comme inconnu, quoique bien connu. Comme mourant, et voici, nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort. Donc, Paul aurait pu dire, oui, nous sommes inconnus. Hey, on est des no-names. On est des sans-noms. On est insignifiants dans ce grand empire romain. Mais nous sommes connus de Dieu. Nous sommes choisis de Dieu. Nous sommes ouvriers de Dieu. Donc, voyez-vous, ah, c'est sûr qu'on est des no-names. Mais on est connus de Dieu. Ah oui, nous sommes au seuil de la mort. On est souvent en danger de mort. Mais on n'a jamais été aussi vivant que maintenant. Christ est notre vie. Et on prêche la vie éternelle en lui. Ah oui, nous sommes punis, emprisonnés, lapidés. On le sait, Pierre, il a été lapidé même. Pierre, Paul. Mais Dieu, il n'en a pas terminé avec nous. Puis il nous protège. On n'est pas encore mort, il nous conserve en vie. Regardez le verset 10. « Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses. » Alors, il aurait pu dire, « Ben oui, nous sommes tristes, on pleure beaucoup. Dans nos souffrances, on pleure. Quand un frère ou une sœur meurt à cause de sa foi, parce que c'était concret pour lui, c'était quelque chose qui vivait. Frère, une sœur qui meurt à cause de sa foi, bien sûr que ça nous attriste. Puis il pleurait beaucoup aussi de voir son peuple rejeté. Alors c'est ça que je suis. Voir mon peuple rejeté, en fait, ils rejettent Christ et ils sont séparés de Dieu à cause de ça. Ils sont maudits, ils sont damnés à l'enfer éternel. C'est sûr que ça nous attriste. Puis même, il dit, j'aimerais moi-même être séparé de Christ pour que mes frères, mes parents, selon la chair, puissent connaître l'Évangile. Puis c'est pour ça que je les supplie d'être réconciliés avec Dieu. Hein? Soyez réconciliés avec Dieu. Ah, oui, je suis triste de voir certains chrétiens se détourner aussi de l'Évangile, parce qu'on le voit même dans certaines épîtres, que des gens qui se sont détournés pour suivre un autre évangile. Ça me brise le cœur. Donc oui, il y a cette tristesse-là. Oui, on pleure, mais il n'y a rien dans ce monde qui peut nous voler notre joie qui est en Jésus-Christ, de notre espérance. Alors voyez-vous, à travers tout, oui, on est triste, mais on est toujours joyeux. Ça m'encourage. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Puis il pourrait dire, c'est vrai qu'on possède rien. Pas sûr qu'il y avait bien grand-chose, hein? Puis même toutes les choses que Paul était pour lui des gains, il regardait tout ça comme une perte à cause de Christ. Alors, tous ces privilèges, il les a perdus. Alors, oui, on ne possède rien. On sait que le Seigneur lui-même aussi s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Pourquoi? Pour enrichir d'autres. Pour nous enrichir spirituellement. Alors, Paul le voyait comme un privilège de rien posséder, mais de pouvoir enrichir les autres avec l'Évangile. Alors, vous savez, on veut enrichir les autres avec l'Évangile, c'est normal que ça nous coûte quelque chose. Il y a un prix. Si on veut enrichir les gens avec l'Évangile, il y a un prix. Puis Paul payait ce prix-là. Alors, voyez-vous tous ces paradoxes? Ah oui, on est comme ça, mais... Hein? Triste, mais toujours joyeux. Hein? On est persécuté, mais on n'est pas mis à mort. Tous ces paradoxes-là dans la vie de Paul font un certain sens au final. Remarquez comment la vie chrétienne, c'est toujours un... C'est dans la faiblesse que je suis fort. Tout un plein de paradoxes. Il faut que je meure si je veux vivre en Christ. Il faut que je meure à moi-même et que je devienne une nouvelle créature. Il y a tellement de paradoxes dans l'Évangile. Alors, vous savez, notre vie peut paraître sombre pour certains. Même notre vie peut paraître plate pour d'autres. Je suis souvent fait dire ça. Hey, ta vie a l'air plate, toi, parce que, tu sais, je pour l'Évangile, puis pour le Seigneur, puis... Mais on a de loin la plus merveilleuse des vies. Ça, il ne faut pas l'oublier. La plus merveilleuse des vies au monde. Une vie avec Dieu, le Dieu créateur comme étant notre Père, habité par son Esprit, sous la seigneurie de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui se compare à ça dans ce monde. Puis il n'y a rien qui ne devrait être capable de nous enlever notre joie qu'on a, notre espérance. C'est ça que le monde doit voir en nous. Peu importe comment la vie nous met par terre, parce qu'elle va vous mettre par terre, la vie. Mais peu importe comment le monde doit voir qu'il n'y a rien qui peut nous enlever notre joie, notre espérance qu'on a à cause de Jésus-Christ. Et c'est cette vie-là que Paul présente aux Corinthiens. C'est cette vie-là qui témoigne le vrai Évangile. Les trois derniers versets sont un peu comme à part, dans le sens que je vais en faire plus une conclusion. Je veux répéter, j'ai dit la patience dans l'épreuve parle plus fort que nos paroles, une vie soumise à Dieu parle plus fort que nos paroles, mais même malgré notre patience puis notre soumission à Dieu, ben on va avoir des gens qui ne vont pas interpréter notre vie comme ça, puis ils vont nous rejeter. On ne sera pas bien perçu, on ne sera pas bien reçu, mais c'est normal. C'est normal. Et ce que je veux terminer, c'est les deux derniers versets, 11 à 13. « Je t'ai appelé par ton nom. » Je trouve ça beau, ces versets-là. J'intitule ma conclusion « Je t'ai appelé par ton nom » parce que... Bon, on voit Paul ouvre son cœur dans ces versets-là. Dans Ésaïe 43, je ne veux pas qu'on tourne, mais Dieu parle à Israël, puis il va parler, il dit « Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Puis j'aime cette idée-là, « Je t'ai appelé par ton nom. » Parce qu'ici, Paul les appelle par leur nom. Il dit « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. » Puis je pense que c'est important de s'arrêter sur cette idée-là, parce que c'est pas souvent que Paul fait ça. Il le fait, puis je vais regarder quelques exemples, mais il les appelle par... Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Il tombe dans un mode vraiment d'amour pour les Corinthiens. Et là, il les appelle par leur nom. Vous savez, quand on se fait appeler par notre nom complet, il y a souvent une certaine émotion qui est reliée, hein? Je ne sais pas si quand vous étiez enfant et que vos parents étaient fâchés, vous allez sûrement vous identifier, mais tu sais, c'était pas juste le prénom qu'ils utilisaient. Tu sais, mettons, Martin, mais tu sais, si c'était vraiment fâché, c'était le prénom et le nom avec un ton sévère. Hein? Tu sais, mon père, c'est Martin l'Hébreu. Tu sais, viens ici. Oh, là, quand l'Hébreu était là, là, c'était comme, OK, là, c'est sérieux, puis il n'y a pas de confusion. Ça ne peut pas être un autre Martin, là. C'est vraiment moi. C'est comme s'il voulait être vraiment certain que je comprenne que c'est moi qui parle, même s'il y avait juste un Martin. Non. Mais il y a vraiment une émotion quand on parle avec le nom. Puis, ça arrive souvent aussi que Marie-Pierre dit mon nom complet, pas parce qu'elle est fâchée, là. C'est Martin Lébreux, non. Mais je me rappelle, j'ai des souvenirs que souvent, elle va dire, « Je t'aime, Martin Lébreux. » Tu sais, au début, ben, mais tu sais, à force d'y penser, je dis, « C'est quand même, il y a quelque chose. » Parce que tu sais, elle pourrait juste dire, « Je t'aime. » Ah, ben, moi aussi, je t'aime. Elle pourrait dire, « Ben, je t'aime, Martin. » Ben, il y a plein de Martins dans le monde, mais je sais que c'est à moi qu'elle parle. Mais là, quand elle dit « Je t'aime, Martin Lébreu », j'ai tout le temps senti qu'il y avait une intensité plus profonde, quelque chose de plus intense, plus personnalisé. Alors, vous voyez l'idée avec Paul ici, quand il va désigner le lecteur par son nom, il y a quelque chose de plus profond, il y a une émotion que je ressens là. Ça peut être autant négatif que positif, parce que Galate, là, il dit « Oh, Galate, dépourvu de sens! » Donc, c'est négatif, ça, mais il les appelle par leur nom. C'est comme mon père quand il dit « Martin, l'Hébreu! » Donc, autant négatif que positif, il y a cette émotion. Quand il mentionne le soutien fidèle aussi qu'il a reçu aux Philippiens, « Vous le savez vous-même, Philippiens! » Alors, on sent qu'il y a quelque chose. Puis ici, Paul appelle Corinthiens. Puis je veux juste remarquer ça, parce que c'est la fin de mon texte. Il dit, « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. » Il y a une émotion vraiment spéciale. Même en sachant tout ce qu'ils ont fait pour lui. Puis c'est ça qui est beau. Et là, il espère une réponse réciproque qui pourrait peut-être, les Corinthiens, dire, « Ah oh, oui, Paul, on va te donner la place dans notre cœur. » Vous savez, Paul était un père spirituel hein, pour ces gens-là, ces chrétiens, ces églises. C'est comme un père qui parle à ses enfants. Des enfants qui ont presque pas de place pour lui dans son cœur. L'ingratitude des enfants, des fois. Hein. On sait, les parents se donnent, puis travaillent. Puis, oui, on n'est pas parfait. Puis des fois, les enfants, on sent qu'on n'a pas, ils n'ont pas dans leur cœur autant cet amour envers les parents. Puis ça fait de la peine. Puis c'est ça qui se passe avec les Corinthiens qui l'ont un peu comme mis de côté. Parce qu'ils ont fait de la place pour des faux enseignants. Ils ont mis de côté Paul, puis ils ont écouté des faux enseignants qui leur ont prêché un faux Christ. C'est un piège pour eux, ces faux enseignants-là, pour l'unité du corps de Christ, pour l'Évangile. Ils sont tombés dans ce piège-là. Il aimerait tellement les voir se repentir. Les voir lui redonner une place. Mais vous savez, il aurait pu les mettre de côté. Il aurait pu... Mais non. Puis on le sait, Corinthiens, c'est pas des... Tu sais, un Corinthien, là, c'est pas rose, là. Il y a plein de reproches à leur faire. Mais non, il les met pas de côté. Il dit, notre cœur s'est élargi. Moi, ça... En tout cas, je finis avec ça parce que ça me fascine. On est dans l'Église, corps de Christ. Frères et sœurs, on doit aussi rechercher l'unité dans le corps de Christ. On doit aussi rechercher à ouvrir, à élargir nos cœurs pour nos frères. Et même ce frère ou cette sœur qui n'a pas été correct avec moi. Élargir nos cœurs entre nous. Nous aimer comme Christ nous a aimés. C'est ce qu'on est appelé à faire. Donc, c'est un encouragement, parce que je trouvais ça beau à la fin, de voir ce cœur-là de l'apôtre Paul. Je vais terminer par la prière. Mais Seigneur, on veut te remercier encore pour ta parole qui est vivante. Et de voir la vie de Paul comme ça, c'est tellement encourageant. Puis Seigneur, Paul, bon, c'est sûr qu'il était choisi pour quelque chose d'unique. Hein, il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. On le sait qu'il y avait cet appel sur son cœur. Mais je ne veux pas croire que ça marche pour toi, c'est réservé que pour lui. Je veux aussi marcher dans la sainteté, dans la fidélité à ta parole. On veut, Seigneur, être obéissant. On veut te connaître plus. Donc, donne-nous cette grâce de vraiment approfondir notre relation avec toi, notre amour pour toi, mais aussi notre amour pour les frères et sœurs, qu'on puisse être unis ensemble dans un même but. Bénis l'Assemblée de Sainte-Marie. Puisses-tu leur faire du bien, les faire grandir dans ta connaissance, puis qu'ils puissent aussi avoir ce témoignage vivant dans les alentours, puis que les gens puissent voir une différence de la manière dont chacun vit et marche pour toi. Puis c'est au nom de Jésus que je prie. Amen.